Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Sans doute y avez-vous pensé, nous venons de fêter l'anniversaire de Pierre Corneille, né à Rouen le 6 juin 1606. Canal Academy s'en est souvenu et c'est bien d'un Corneille que nous allons parler aujourd'hui, non pas de Pierre, mais de son frère Thomas, de 19 ans son cadet. Nous allons vous parler de Thomas Corneille, de ses talents de grammairien, de la part active qu'il a prise aux travaux du dictionnaire de l'Académie, du dictionnaire des termes des arts et des sciences qui parut le 11 septembre 1694 en supplément au dictionnaire de l'Académie, et du dictionnaire universel géographique et historique auquel il travailla pendant plus de 15 ans et qui fut publié l'année d'avant sa mort, comme si, bien qu'aveugle et harcelé par les créanciers, il avait voulu terminer son œuvre avant de quitter ce monde. J'ai à mes côtés pour évoquer le Thomas Corneille lexicographe, Jean Pruvot. Jean Pruvot est professeur à l'université de Cergy-Pontoise où il enseigne la lexicologie et la lexicographie. Il y dirige conjointement un master science du langage et un laboratoire du CNRS, le Métadif, consacré aux dictionnaires et à leur histoire. Il organise chaque année la journée des dictionnaires, rendez-vous international des lexicologues et lexicographes. Il est l'auteur de plus de 280 publications, dont deux que sais-je, les dictionnaires de langue française et les néologismes. Il a obtenu en 2000 le prix international de linguistique, Logos, avec, paru au PUF, Dictionnaires et nouvelles technologies. Bref, vous conviendrez que nous ne pouvions faire appel aujourd'hui à quelqu'un de plus compétent que Jean Pruvot. Monsieur Pruvot, bonjour.
Merci, c'est trop d'honneur.
Dites-moi, Jean Pruvot, avant de retrouver Thomas Corneille qui nous permettra bien cet aparté, vous avez vraiment chez vous plus de 10 000 dictionnaires ?
Alors, ce sont les journalistes qui disent systématiquement que j'en ai 10 000. Alors, je viens de faire un déménagement il y a peu de temps et je me demande s'ils n'ont pas raison. Mais moi, je pense 5 000, 6 000 serait quand même peut-être plus raisonnable. Mais je vais les compter.
Bon. Je les compte bien. Je fréquente avec assiduité les deux frères Corneille depuis quelques jours pour préparer cette émission et je me suis prise d'une grande amitié pour eux. Pouvez-vous, Jean Pruvot, nous les présenter ?
Alors, ce qui est surprenant pour nous au XXIe siècle, c'est de penser qu'il y a eu quelqu'un d'autre à côté de Pierre Corneille, parce qu'en fait, quand on évoque Corneille, tout le monde connaît Corneille, tout le monde connaît Pierre Corneille, mais on ignore souvent qu'il a un frère, et que surtout au XVIIe siècle, Pierre Corneille a été très connu, bien entendu, mais Thomas Corneille tout autant. Et on ne pouvait pas évoquer Pierre Corneille sans évoquer Thomas, et Thomas sans évoquer Pierre au XVIIe siècle. Alors, je crois que ce qu'il faudrait souligner pour nos auditeurs, c'est que c'est une très belle histoire de frères.
Oui.
Hein, on a souvent les frères ennemis, et là, il faudrait inventer un mot, les frères amis, mais vraiment amis de cœur, au point d'ailleurs que, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'ils vont épouser deux sœurs. Donc, et qu'ils vont vivre dans la même maison, la maison des parents, et qu'ils ne feront pas le partage de leur vivant. Donc, c'est dire à quel point ils étaient unis, et qu'ils feront, dans le fond, la même carrière. D'un côté, celle qui correspond au théâtre, aux comédies, aux tragédies, et donc en écrire. Et puis, de l'autre côté, participer à l'Académie française, en tant, évidemment, qu'académicien soucieux de la belle et bonne langue, mais aussi en tant que lexicographe. Le mot est peut-être un peu forcé, mais participant à des dictionnaires. Pour Pierre Corneille, la première édition, celle qui va paraître en 1694, et pour Thomas, eh bien, ce fameux dictionnaire que vous avez évoqué, des arts et des métiers. Alors, si on regarde d'un peu plus près leur vie, chacun sait qu'ils sont de Rouen, donc il y a 19 ans de différence, ce qui fait que Thomas Corneille est né en 1625, au mois d'août, que leurs études sont similaires, il fera des études de droit au collège des Jésuites, il est brillant, et ça commence assez vite d'ailleurs le plagiat d'une certaine manière, parce que au moment de la distribution des prix, il fait une composition en vers d'une telle qualité que le régent du collège se l'approprie, et la lit et s'en approprie même, disons, la création.
Ah bon.
Donc c'est assez amusant de voir que le talent était là dès les premières années. Il devient avocat au Parlement de Normandie.
Un peu plus tard que son frère.
Un petit peu plus tard que son frère, effectivement. Et pendant que son frère entre à l'Académie française, en 1947, curieusement, la première pièce qui va le faire connaître s'intitulera donc « Les engagements du hasard ». Elle sera jouée à l'Hôtel de Bourgogne, elle aura un certain succès. Mais c'est surtout en 1656, avec donc une pièce qu'on a totalement oubliée, je dois avouer que je ne l'ai pas lue, je ne sais même pas si on pourrait la trouver actuellement éditée, qui s'appelle « Timocrate ». Et Timocrate a un tel succès, c'est le succès du siècle, dit-on déjà à l'époque, avec ce type de formule, qu'elle va être jouée pendant 6 mois. Le roi Louis XIV va même se déplacer.
Absolument.
Pour aller au Marais, au théâtre du Marais où elle est jouée. Et on cessera de la jouer, non pas faute de spectateurs, mais faute d'énergie du côté des acteurs qui n'en pouvaient plus. Donc c'est dire le succès énorme de cette pièce et la carrière d'auteur dramatique que fera Corneille par la suite avec une autre pièce qui est considérée...
Thomas, donc là.
Thomas, oui, voilà, oui, bien sûr, on a tendance attribuer à Pierre Corneille l'essentiel. Mais en contemporain...
Oui, Thomas a eu autant de succès, si ce n'est plus que son frère.
Il a eu plus de succès de son vivant. Évidemment, de manière posthume, il a disparu un petit peu de nos souvenirs. Bah, d'où l'intérêt de cette émission.
Absolument.
Et en 1662, ce sera Ariane, une pièce qui a un grand succès. On dit qu'il l'a rédigée en 17 jours. C'est-à-dire avec vraiment un talent extraordinaire. Alors que c'est là où il y a des anecdotes. Ils vivaient dans la même maison. Et donc, Pierre Corneille était à l'étage du dessus. Il y avait une trappe qui lui permettait de communiquer avec son frère Thomas, à l'étage du dessous, donc. Et lorsqu'une rime venait à manquer, l'extrême facilité qu'avait Thomas Corneille à rimer faisait que Pierre Corneille n'hésitait pas à lui demander une rime en fonction du mot qui venait à la fin. Et il se trouve que l'anecdote est rapportée. Je crois qu'elle est, en tout cas, elle est plaisante, si elle n'est exacte. Elle est rapportée, d'ailleurs, dans le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse. Et aussi dans d'autres dictionnaires. Et lorsque, terminant un vers avec le mot « perdre », il est inquiet parce qu'il ne trouve pas de rime. Il se trouve que ce verbe est vraiment pernicieux, conjugué de cette façon-là.
Et que les rimes sont rares.
Et que les rimes sont rares. Il y en a quasiment qu'une. C'est celle du célèbre Cambronne. Et alors, la réponse a fusé. Une fois la trappe ouverte, il lui a donné le mot de Cambronne et... Pierre Corneille a compris que bon, il n'y avait pas de rime possible, il a supprimé finalement ce verbe. Voilà donc pour cette amitié
entre les deux frères. Bon, l'un et l'autre, auteur dramatique à succès, les deux frères seront l'un et l'autre académiciens. Pierre est élu en 1647, vous le disiez, et Thomas a ce même fauteuil 14 en 1684, à la mort de Pierre. Élu à l'unanimité et reçu le 2 janvier 1685 par Racine.
Oui, c'est impressionnant.
Oui. Ils seront donc mêlés l'un comme l'autre à la vie naissante des dictionnaires monolingues. Pouvez-vous, Jean Pruvot, nous évoquer le paysage lexicographique de l'époque et nous dire comment Thomas Corneille a été impliqué dans cette histoire de la lexicographie française en pleine gestation ?
C'est une belle histoire et longue histoire.
Oui.
On va essayer de la résumer. En disant que le premier dictionnaire qui est les mots français dans sa nomenclature, et en premier, c'est le dictionnaire de 1539, donc de Robert Étienne, et qui s'appelait dictionnaire françois latin. D'ailleurs, il n'y avait pas de trait d'union, c'était un mot composé qui était juxtaposé. Et ce dictionnaire a un certain succès. Il y aura de multiples rééditions, dont l'une très célèbre, celle de Nicot, qui va en 1606, nous voilà au XVIIe siècle, qui va en 1606 publier donc le fameux trésor de Nicot. Alors de quoi s'agit-il ? On a le mot français en premier, suivi du mot latin, mais donné de manière minimale, sans explication en latin derrière, suivi d'explications en français.
Donc c'est encore un dictionnaire bilingue.
C'est encore un dictionnaire bilingue, ce que Bernard Quémada appelait des faux bilingues. Mais on a compris qu'il suffit de supprimer maintenant la traduction en latin, de développer de manière plus systématique l'explication du mot en français, et on aura le dictionnaire monolingue. Et c'est la grande idée de l'Académie française, constituée donc par Richelieu en 1635, mais en partant de passionnés de la langue, hein, autour de Conrart, de Chapelain et de quelques autres. Et donc, ce dictionnaire de l'Académie est décidé, l'État a besoin d'un dictionnaire, c'est le dictionnaire de la langue française pour une nation, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut le concevoir, d'autant plus que l'Italie venait d'avoir un dictionnaire monolingue, donc l'Académie de la Crusca. Les académiciens se mettent au travail, c'est Vaugelas qui principalement rédige donc ce dictionnaire. Quand Vaugelas meurt, là, y a une difficulté, parce que il faut qu'on passe de l'œuvre d'un homme qui se fait aider un petit peu, mais peu, à une équipe. Oui. Et donc, là, intervient quelqu'un qui, dans le fond, va avoir un rôle énorme, Furtière. À un moment donné, lorsqu'il faudra récupérer, qui est entré à l'Académie française, lorsqu'il faudra récupérer le manuscrit du dictionnaire de l'Académie auprès de Mézeray, va être accusé de l'avoir recopié. Parce qu'en fait, il était très intéressé par ce
plagiat
dictionnaire.
Plagiat encore.
Alors, on parle de plagiat, mais en réalité, non. Il y avait deux projets distincts. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. C'est que il y a trois dictionnaires qui, à la fin du XVIIe siècle, vont en quelque sorte définir le paysage d'aujourd'hui, y compris du XXIe siècle. Le premier, c'est en 1680. Je vais revenir à Furtière.
Oui.
Le premier, c'est en 1680, Richelet, qui publie un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire français, 25 000 mots, dans lequel il y a des citations. Les académiciens n'en sont pas jaloux, c'est un petit dictionnaire, petit format, et en conséquence, il a l'autorisation de l'Académie. Il y a même quelques académiciens qui participent. Dans le fond, c'est l'ancêtre des dictionnaires avec des citations, du Littré, du Robert, etc. 1690, là revient Furtière. Et Furtière, vous venez de le désigner là, du doigt, Furtière, l'ouvrage qui se trouve à mes côtés, Furtière, donc lui souhaitait faire un dictionnaire justement des mots de métier, un dictionnaire des mots techniques, c'est en ce sens qui préfigure
que l'Académie laissait de côté.
Que l'Académie laissait de côté. Et Furtière participait aux travaux du dictionnaire de l'Académie française et il avait demandé l'autorisation de faire son propre dictionnaire évoquant les mots techniques. Dans le fond, ce que fera Thomas Corneille par la suite. L'Académie accepte. Mais on s'aperçoit d'un seul coup que ce dictionnaire qu'il fait, eh bien, contient aussi les mots ordinaires, comme chaise, table, cheval. Il empiète sur le travail de l'Académie.
Le champ de l'Académie.
Tout à fait. Et du même coup, l'Académie s'insurge.
En prend ombrage.
Et met en place une commission dont Thomas Corneille fait partie, pour montrer qu'il y a plagiat. En fait, il n'y avait pas plagiat. Mmh. Il y avait un projet différent. Là où, évidemment, l'Académie pouvait être furieuse, c'est que Furtière marchait quand même en partie sur
ses plates-bandes.
Leur territoire. Alors Furtière, que fait-il ? Un dictionnaire qui est de type encyclopédique. C'est-à-dire que c'est davantage la chose ou l'idée décrite par le mot qui n'intéresse que l'usage du mot. Du coup, il met des citations. Mais à l'époque, la différence qu'on fait aujourd'hui allègrement entre le petit Larousse et le petit Robert n'est pas faite. On attend un dictionnaire monolingue, français. Et il faut le dire, le dictionnaire de Furtière a un grand succès. Alors en 1685, le petit ouvrage que vous avez là, c'est dans le fond un échantillon du dictionnaire à venir en 1690 de Furtière, que Furtière présente un peu à chacun pour dire, voyez, le contenu n'est pas le même que celui de l'Académie. Il n'en reste pas moins que l'Académie propose d'exclure Furtière. Le roi tergiverse, attend. Furtière va mourir entre-temps. Donc, contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas été exclu. Il a été proposé à l'exclusion.
Il s'est exclu lui-même.
Ouais. Et en 1690, donc, ce dictionnaire a un grand succès. Il est préfacé par Pierre Bell. Il contient 40 000 mots. Vient alors l'Académie française en 1694.
Oui.
En 1692, vous avez cité Racine, en 1692, il y avait eu un premier ouvrage qui se trouve d'ailleurs ici à Mazarine, je crois, mais qui était fautif, il y avait quelques coquilles. Et donc Racine lui-même avait dit « il ne faut pas publier cet ouvrage, nous allons être ridiculisés ». On a attendu 1694. Le dictionnaire de l'Académie n'a pas été bien compris, alors que c'était un chef-d'œuvre. C'était un dictionnaire, dans le fond, vraiment de langue, qui avait pour objectif de décrire la langue en synchronie, c'est-à-dire à l'époque donnée, sans chercher les mots d'hier, sans non plus ajouter les mots techniques.
Et langue telle qu'elle est parlée.
Et langue telle qu'elle est parlée, la belle langue quand même, bien sûr,
oui.
Une langue courtoise, une langue élégante. Mais enfin, il y avait aussi d'ailleurs des mots orduriers. On ajoutait systématiquement « il est bas ». quand il y avait un mot qui n'était pas
il est bas.
Donc du registre courant. Et donc, l'Académie est peut-être un peu déçue parce que son dictionnaire, qu'aujourd'hui il faut reconnaître comme étant un dictionnaire très moderne, parce qu'aujourd'hui le dictionnaire contemporain, pour le coup, on fleurit, même à l'époque du structuralisme, on a fait des grands dictionnaires, le dictionnaire du français contemporain de Jean Dubois qui a eu un énorme succès, c'était dans le fond le projet de l'Académie.
Le DFC.
Le DFC, voilà.
Sur lequel je fais ma thèse.
Voilà, donc vous voyez, quelle était l'originalité du DFC comme l'Académie, mais l'Académie comme pionnière, c'est de ne pas donner de citation, mais d'offrir des exemples. Et donc, ses propres exemples. Et d'ailleurs, ils avaient des difficultés à citer, parce qu'ils se seraient cités eux-mêmes avec Racine,
bien Corneille,
sûr. Etc.
Voilà, donc, difficile de se citer soi-même.
Alors, le dictionnaire de Thomas Corneille intervient juste après, quelques semaines après, puisqu'il paraît en 1694.
Alors, vous venez, M. Prévost, de brosser le contexte lexicographique de cette fin du XVIIe siècle. Pourriez-vous nous dire maintenant plus précisément ce que représente le dictionnaire des arts et des sciences de Thomas Corneille, paru en deux volumes, fin 1694, vous le disiez à l'instant, et présenté dans la préface du dictionnaire de l'Académie comme un dictionnaire à part.
C'est cela. L'Académie, donc, comme on l'a dit, se refusait, et c'était un bon choix, d'inclure tous les jargons, tous les mots techniques. Mais cependant, Furtier avait eu un grand succès avec ses 40 000 mots, et lui, évidemment, les mettait en avant, les mettait en relief. Et l'Académie sent bien qu'il lui faudrait un complément. Et elle pousse Thomas Corneille, et Thomas Corneille est très partant pour cette opération, à rédiger un dictionnaire qui, dans le fond, fasse pièce à celui de Furtier. Alors, quand on lit la préface du Dictionnaire des Arts et des Sciences, donc de 1694 aussi, comme la première édition du Dictionnaire de l'Académie, vous voyez, les premières lignes de la préface sont presque belliqueuses, presque concurrentielles. Le dictionnaire qui fut imprimé en Hollande en 1688, c'est celui de Furtier, en fait en 90. Mais ayant fait voir le goût du public pour la connaissance des termes des arts, des arts, faut comprendre des artisanats, des métiers. Quelques particuliers de l'Académie française n'ont pu souffrir ce que publient les partisans de l'auteur, qu'avec quelque exactitude qu'elle fît le sien, il serait toujours moins recherché parce qu'il ne contient que les mots de l'usage ordinaire de la langue. En fait, il en fait la critique. Et il dit, il a confondu la langue espagnole et l'italienne pour tel mot, il a confondu la définition du tamarin, ce n'est pas du tout ce qui est donné. Nous, dit-il, ben nous faisons un dictionnaire, nous, c'est-à-dire Thomas Corneille. D'ailleurs, ce dictionnaire va paraître non pas avec le nom de Thomas Corneille, mais M.T.C. Ce qui est...
C'est-à-dire
Monsieur Thomas Corneille, en fait. Et du même coup, ce dictionnaire va être une compilation, au bon sens du terme, de tout ce que l'on sait à l'époque sur donc les métiers, sur les arts, et va avoir pour thème notamment tout ce qui est science physique, c'est un peu vieilli, médecine, c'est déjà un peu vieilli à l'époque, mais surtout l'histoire naturelle. Mmh. Et là, en ce qui concerne l'histoire naturelle, donc pour tout ce qui est botanique, pour tout ce qui est aussi zoologie, on avait un dictionnaire qui était précieux, qui rassemblait les informations de l'époque. On y trouve aussi des articles d'histoire et de géographie, qui étaient naguère réservés donc, au dictionnaire historique. Donc ce n'est pas un dictionnaire hors du commun pour l'information, c'est une belle et bonne synthèse. Et puis évidemment, c'est une sorte de dictionnaire de lancement pour d'autres projets.
Donc deux volumes.
Deux volumes. Et alors, on pourrait entrer dans le détail, bien sûr, des mots qui sont proposés. Hein, je ne sais pas, je vais prendre calcamar. Alors, calcamar, sans doute, d'ailleurs. Oiseau du Brésil, de la grosseur d'un pigeon. Assapanique, petit animal de la Virginie. Les Anglais l'appellent écureuil volant. Calamba, nom que donnent les Indiens, ce que les droguistes appellent lignum aloes. Les Portugais, palo d'aguila. C'est un arbre qui vient en fort grande quantité en Malacca, Sumatra, Cambroia et ailleurs. Alors, pour les ordres religieux, là aussi, il est très précis. Hein, et il dit dans la préface, tous les ordres, tant religieux... Il faut dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Pierre et Thomas Corneille étaient animés d'une foi très sincère.
Oui, oui, oui.
Hein, et ça se ressent...
L'un comme l'autre.
L'un comme l'autre. Alors, dans le dictionnaire de l'Académie, ça n'a pas lieu d'être. Mais là, évidemment, ça a sans doute son impact.
Mm-hmm. Hein.
Il disait dans la préface, tous les ordres, tant religieux que militaires, sont ici décrits avec le temps de leur institution, et qui leur est ordonné par leur statut. On a suivi la même méthode pour tous les hérésiarques, afin de contenter ceux qui veulent savoir l'origine et le progrès des diverses hérésies qui ont infligé l'Église. On n'a pas oublié les dignités et les charges, tant anciennes que modernes. Soit dit en passant, Furtière était d'obédience janséniste, et préfacé par Pierre Bel, d'obédience protestante, mais janséniste ensuite. Et bien entendu, on a là aussi une sorte de contrepoint, hein. Et puis, dans les encyclopédistes, après.
Absolument. Ce dictionnaire des arts et des sciences constitue donc une étape très importante dans l'histoire des dictionnaires. Quel va être son devenir ? Aura-t-il une continuité au XVIIIe siècle ?
Oui, alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est comme ça que les passionnés de la lexicographie le présentent, c'est que, sans être un dictionnaire extraordinaire, ayant vocation de surprendre le public, donc ce dictionnaire n'aura pas un succès phénoménal. C'est un dictionnaire qui constitue une très belle base et une initiation pour le public à ce qu'est, dans le fond, l'encyclopédie. Entendons par là qu'à la limite, Furtière avait plu par ce qu'il ajoutait dans le domaine de l'encyclopédie, hein, s'intéressant plus à la chose qu'aux mots. Thomas Corneille reprend le Furtière en le rendant exact par rapport aux sciences de l'époque et en le ciblant davantage sur donc tout ce qui concerne l'encyclopédie. C'est dans l'air du temps. On est au XVIIIe siècle maintenant, avec deux éditions qui vont donc suivre ce dictionnaire, une en 1720 et une en 1732, qui sont d'ailleurs suivies par le neveu de Corneille, qui n'est autre que Fontenelle.
Fontenelle. Hein, qui était aussi, son neveu par alliance.
Voilà, c'est la sœur de Thomas Corneille, c'est le fils de la sœur de Thomas Corneille. Et du même coup, on a, venant de l'Angleterre, déjà de grands projets qui se mettent en place, et notamment le dictionnaire de Chambers. Cette fameuse cyclopédia qui comporte quelques illustrations et qui traite par thème les savoirs de l'époque. Donc Thomas Corneille a bien préparé ce chantier, Furtière aussi, et l'encyclopédie qui va suivre, bien entendu, va être une sorte d'héritière, peut-être pas directement de Thomas Corneille, mais en tout cas héritée des goûts qui ont été...
De son esprit, en tout cas.
Voilà.
On pourrait, bien sûr, rester ensemble bien longtemps. Nous venons de passer une demi-heure avec Thomas Corneille. Nous aurions aimé le garder plus longtemps avec nous. C'était un homme de bonne compagnie. Et je voudrais, pour conclure cet entretien, Jean Pruvot, donner la parole à M. Claude Gros de Beauze, secrétaire perpétuel de l'Académie, qui prononça son éloge en 1710 à l'Assemblée publique d'après Pâques. Thomas Corneille s'était éteint le 8 décembre 1709 aux Andelys, dans la propriété héritée de sa femme. Pénétré des vérités de la religion, il en remplissait les devoirs avec la dernière exactitude, mais sans aucune affectation. Très sincèrement modeste, il n'avait jamais voulu profiter des occasions favorables de se montrer à la cour, ni chez les grands. Et toujours empressé à louer le mérite d'autrui, on l'a vu plusieurs fois se dérober aux applaudissements que le sien lui attirait. Il aimait sur toute chose une vie tranquille, quelque obscure qu'elle pût être. Bienfaisant d'ailleurs. Généreux, libéral, même dans la plus médiocre fortune. Tous ceux qui l'ont connu le regrettent, comme si la mort l'eût enlevé à la fleur de son âge. Car la vertu ne vieillit point.
Très beau texte.
Joli. Jean Pruvot, merci.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.